les objectifs dominants de détermination de la peine sont la réadaptation et la réinsertion sociale, qui sont également des objectifs de la peine chez les adultes. Par contre, chez les adultes, les objectifs ne sont pas nécessairement des objectifs dominants. Chez les adultes, on considère évidemment aussi la dénonciation et la dissuasion comme des objectifs de détermination de la peine, tout aussi important et dans certains cas plus important que la réinsertion sociale d'un adulte. Mais chez les jeunes, on part vraiment de la prémisse, là, le principe, c'est que la réadaptation et la réinsertion sociale sont des objectifs dominants, alors que la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs aussi, mais plus secondaires. Voilà.
D'accord. Il nous reste trois questions, mais M. Louis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la question du pardon et la réinsertion?
Ben, et pour juste ajouter quelque chose par rapport à ce que M. Chabouti a expliqué, est-ce qu'on peut parler de pardon? Parce que l'objectif, ce n'est pas le pardon, bien sûr, parce que là, les mineurs sont considérés comme étant en développement et plus susceptibles de faire des erreurs, disons, en raison de la immaturité. Sur cet aspect-là, la société en soi reconnaît qu'ils ne sont pas complètement formés sur le plan psychologique, donc et moral en même temps, c'est ce qui justifie une protection accrue par rapport à leur identité ou à leur façon que la loi sur le système pénal qu'on appelle la SJPA, qui le permettrait bien entendu de purger une certaine peine. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment du pardon dans ces cas-là? Ça, c'est ma question fondamentale, M. Chabouti.
C'est que ça dépend de la conception qu'on a du pardon. C'est-à-dire que quand on utilise ce terme-là pour les adultes, ça réfère au fait d'avoir eu une condamnation criminelle qui entraîne une peine et donc l'inscription d'une condamnation comme casier judiciaire et de le voir, cette condamnation-là, si on veut, suspendue. Parce qu'on parle de pardon, mais maintenant on appelle ça la suspension du casier judiciaire. Chez les jeunes, on n'a pas besoin de faire cette démarche-là. Il y a une certaine réflexion sur le pardon qui est en amont de ça, c'est-à-dire que tout est mis en place pour que une condamnation juvénile n'ait pas d'effet disproportionné dans notre vie une fois qu'on est adulte, sans dire qu'il n'y a pas de conséquences, là, c'est pas exact, mais tout est pensé pour éviter que, contrairement aux adultes, l'effet d'une condamnation criminelle ne soit pas disproportionné. Ce pourquoi la loi et la peine est articulée autour de la réinsertion. Et je pense, moi, qu'en ce sens-là, il y a une sensibilité.
Merci, Maître Chabouti. Si vous nous rejoignez maintenant, vous écoutez à la loupe du droit sur Radio Centre-Ville 102.3, une émission pour connaître, comprendre, se familiariser avec ce qui se passe dans le système juridique canadien.
Alors, on poursuit avec les questions.
Les questions, oui, exactement.
La question, on fait suite avec cette question, c'est quand quelqu'un est en libération conditionnelle, je dis quelqu'un, je ne parle pas d'un adolescent, mais globalement, que peut faire une personne ou qu'est-ce qu'une personne qui est en libération conditionnelle ne peut pas faire?
Alors, une personne qui est en libération conditionnelle, d'abord, ce que ça signifie, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de purger une peine d'incarcération. Donc, c'est quelqu'un dont la peine n'est pas terminée, qu'il demeure une portion à être purgée, et elle obtient une libération conditionnelle plutôt que de purger sa peine en établissement de détention. Ça, c'est le grand principe. Et qu'est-ce que cette personne peut faire ou ne pas faire? Eh bien, ça va dépendre de son plan de libération conditionnelle qui va être décidé par un agent de libération conditionnelle. Et en fait, la personne va être soumise à une série de conditions assez restrictives, règles générales, conditions qui vont être développées au regard des circonstances de l'infraction, donc pour que ça ait un lien avec ce qui a amené la personne à perpétrer une infraction criminelle, et également au regard de son profil personnel, si elle a, par exemple, des enjeux de toxicomanie ou des enjeux d'alcoolisme, les conditions vont être dégagées et formulées pour répondre aux besoins spécifiques de la personne. Alors, c'est très difficile de répondre exactement ce qu'on peut faire, pas faire. Il y a autant de plans de libération conditionnelle qu'il y a d'individus en libération conditionnelle. On peut penser que quelqu'un peut devoir passer par une maison de transition. On peut être empêché d'utiliser un téléphone cellulaire. On peut être soumis à un couvre-feu. On peut devoir faire du travail communautaire, probablement. Alors, c'est un plan qui va être extrêmement individuel individualisé et que l'individu va devoir suivre à la lettre pour éviter d'être incarcéré pendant sa période de libération conditionnelle s'il ne respecte pas l'ensemble de ses conditions et qu'on estime qu'il doit retourner en incarcération pour s'assurer que tous les objectifs de la peine et que la sont rencontrés et que la société est également protégée.
Vaudrey, et pour quelle raison quelqu'un peut être en liberté conditionnelle? Pour quelles raisons?
Ben, les raisons, M. Chavouti probablement n'a pas accentué dessus. Ça peut être, par exemple, au niveau de la prison, la personne a un comportement vraiment exceptionnel, exemplaire. Et en fonction de ça, comme avec son agent de libération conditionnelle qui pourrait lui donner certaines conditions, comme Maître Chabotier a expliqué. Par exemple, si je peux citer quelques uns, il pourrait être quelqu'un, c'est ce qu'on peut faire, on peut vivre en communauté, il n'y a pas de problème. On peut travailler ou étudier, il n'y a pas de problème.
Donc, en liberté conditionnelle.
En liberté conditionnelle. On peut même voyager à l'extérieur de certaines limites. Donc, tout dépend de l'agent conditionnel. Ce que vous ne pouvez pas faire, si je peux changer, vous ne pouvez pas causer d'autres infractions pénales. À ce moment-là, vous allez directement retourner là où vous étiez avant et aussi fréquenter certains endroits comme des endroits réputés criminels avec des situations extraordinaires. Donc, qui pourrait vous inciter à causer encore des infractions contre la société en même temps? Et autre chose, vous ne pouvez pas quitter la région sans permission de l'agent conditionnel.
Mm-hmm. OK, mais quelqu'un ou bien un adolescent ou un adulte qui est en liberté conditionnelle, est-ce que ce temps de libération conditionnelle est amputé de sa peine, c'est-à-dire le nombre de temps que les personnes avaient pour passer en prison?
Peut-être vous donner un exemple pour illustrer, si vous désirez. Du moins en ce qui concerne les adultes. Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un est sentencé à une peine d'incarcération ferme, donc il va purger dans un établissement de détention. Je fais une parenthèse ici, peut-être vous préciser qu'au Canada et au Québec, le régime va être différent selon qu'on a une peine qui est provinciale, donc purgée dans une prison, ou que la peine est fédérale, donc une peine de 2 ans et plus, purgée dans un pénitencier. Les régimes de libération conditionnelle sont différents à plusieurs égards. Et également, la libération conditionnelle, le régime va être différent aussi selon la durée de la peine qu'on nous a effectivement infligée. Alors, il y a tout ça qui est à considérer quand on parle de régime de libération conditionnelle. Mais pour vous donner un exemple très simple pour comprendre, quelqu'un sentencé, disons, à 6 ans d'incarcération ferme va au Canada obtenir ce qu'on appelle une libération d'office aux 2/3 de sa peine. Alors ça, il n'a pas à demander la libération conditionnelle, il va l'obtenir automatiquement, sauf exception, donc après 4 ans, disons, au plus tard. Certaines infractions donnent ouverture à une libération conditionnelle au 6e, au tiers, mais au plus tard, on est libéré aux 2/3. Et pendant, donc sur une peine de 6 ans, après 4 ans, on est au plus tard libéré. Il reste quand même un reliquat de 2 ans de notre peine à purger et on considère qu'on la purge toujours alors qu'on est en libération conditionnelle. Donc, il faut juste bien saisir que quand on dit que quelqu'un est en libération conditionnelle, c'est quelqu'un qui a été déclaré coupable, sentencé et qui est encore en train de purger sa peine. Elle n'est pas terminée.
C'est très clair maintenant. Alors, nous allons revenir à la question concernant la loi C4. Donc, dans vos pratiques, disons, dans votre pratique, Maître Chabotis, comme avocate experte en droit pénal, comment est-ce que vous voyez l'impact de cette loi-là, la loi Sébastien? Donc, il y avait avant le projet de loi C4 qui est devenu la loi Sébastien, en hommage à ce jeune qui a été tué à Laval, que le Belkier a lu tout récemment dans la revue de presse. Quel est l'impact de cette loi-là sur la société québécoise? Est-ce que selon vos pratiques, vous voyez qu'il y a une augmentation, une baisse, une stagnation de la situation pénale, criminelle ici au Québec?
Alors, ma pratique est très peu axée sur la représentation d'adolescents.
Oui.
Vraiment très peu. Je pratique vraiment principalement et presque exclusivement auprès des adultes. Par contre, dans ma carrière, j'ai quand même eu quelques mandats là, qui impliquaient des adolescents. Et pour évidemment vous donner une réponse adéquate, j'ai fait appel à un collègue qui a beaucoup plus d'expérience que moi en matière de représentation pénale des adolescents. Et ce qu'on comprend, c'est que malgré ce projet de loi qui a été adopté et qui visait un peu à renforcer la sévérité des peines du système de justice pénale pour adolescents, dans les faits, il n'y aurait pas eu beaucoup de changements. Évidemment, ce n'est pas une statistique officielle ce que je vous communique. C'est un peu les observations d'un praticien qui fait presque exclusivement ça. Et pour ne pas le nommer, Maître Thiago Murias me disait que lui, dans sa pratique, depuis 12 ans, il a peut-être un dossier où la poursuite demande d'assujettir l'adolescent à une peine pour adulte. Souvent, c'est réservé à des dossiers très graves. Donc, par exemple, un dossier de meurtre où les circonstances sont particulièrement aggravantes et où l'adolescent s'approche de la majorité. Ces genres de dossiers, on va voir une demande d'assujettissement. C'est une demande, hein? Donc le tribunal doit l'accueillir pour qu'elle s'applique. Il ne suffit pas que le ministère public formule son souhait que l'adolescent soit assujetti à une peine pour adulte. Il faut tenir une audition, faire un débat contradictoire entre la poursuite et la défense et avoir une décision du tribunal. Et malgré que les demandes soient limitées en nombre, je peux pas vous dire combien il y en a par année à Montréal ni au Québec, mais je vous dirais quelques-unes. Et elles ne sont pas toutes octroyées. Au contraire, l'impression qui s'en dégage, c'est que la majorité de ces demandes seraient refusées puisque non appropriées. Je reviens encore toujours à l'esprit de cette loi sur le système de justice pour adolescents. L'idée, c'est dans la mesure du possible, éviter l'excès dans les peines, éviter les ordonnances de mise sous garde lorsque c'est possible. Il y a toujours évidemment des cas d'espèce où on doit opter pour la sévérité, ça c'est clair et la loi le permet, mais en général on veut éviter d'assujettir un adolescent à une peine pour adulte puisqu'on considère que comme son développement n'est pas terminé, probablement que les effets indésirables d'être incarcéré avec des adultes l'emporte sur les avantages qu'on y voit. Donc, c'est réservé aux cas les plus sévères, les plus graves, les plus manifestes. Et en pratique, on n'a pas l'impression que ce projet de loi adopté en réaction à un événement très, très malheureux a nécessairement augmenté le nombre de déclarations d'assujettissement d'un adolescent à une peine pour adulte.
D'accord. Est-ce qu'à votre avis, et vous pouvez répondre aussi, est-ce que à votre avis, ça demeure juste un élément de dissuasion?
Je pense que oui, parce que quand je fais mes recherches par rapport aux statistiques pendant les 10 dernières années, donc ce qu'on a constaté, c'est que c'est les statistiques qui sont disponibles qui montrent que bien que la loi ait effectivement été conçue non seulement pour durcir les peines des jeunes contravenants, le nombre de condamnations des mineurs à perpétuité au Canada reste relativement faible. Donc, le système judiciaire continue de privilégier surtout la réhabilitation des jeunes et les condamnations à perpétuité, donc reste rare. Cependant, il y a eu quelques cas de mineurs condamnés, par exemple, à des peines sévères, y compris à perpétuité, donc particulièrement pour des crimes graves, donc comme le meurtre, par exemple. Et aussi, la tendance générale par rapport à cela, c'est que globalement, au Canada, en faveur de, est toujours, malgré la tendance générale, malgré la loi C4 qui était adoptée en 2012, bien entendu. Donc, la tendance globale au Canada reste en faveur de l'utilisation, surtout des mesures alternatives à l'incarcération à perpétuité pour les mineurs. Bien que la loi Sébastien ait introduit des dispositions plus strictes, donc la condamnation à perpétuité pour les mineurs ne sont pas courantes au Canada. Donc, le système judiciaire canadien, y compris au Québec, tend à utiliser surtout des peines avec parcimonie, donc disons un peu atténuante, là, quelque part. Donc, ça reconnaissant la différence, par exemple, entre les adolescents, les adultes en termes de développement psychologique et moral. Et ce qui donne l'opportunité surtout à le système LGPA qui, bien entendu, utilise le système de droit pénal ou encore pour gérer ces enfants-là. Ouais, je les appelle des enfants parce qu'ils ne sont pas encore vraiment tout à fait adultes, et capables de faire certaines réflexions. Donc, justement, malgré la loi C4, donc, on reste tranquille avec ça.
D'accord, c'est noté. C'est noté. Merci de vos commentaires. Donc, on approche à la fin de l'émission. Et Maître Chabotti, on vous donne l'occasion à la loupe du doigt, ce n'est pas une question qui vient du public, de donner votre impression du système juridique pénal canadien. Quelle est votre impression? Comment c'est actuellement? Et quel est votre souhait?
je Je crois personnellement, c'est une opinion toute personnelle qui est le fruit de mes observations et de ma compréhension, qu'on a probablement l'un des meilleurs systèmes pénals au monde. On se compare souvent aux États-Unis parce qu'effectivement, il y a plusieurs similarités entre les deux systèmes. Mais je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, si j'avais à être accusée dans un État, je choisirais volontiers le Canada. Non pas parce que on est dans un État où on va acquitter les gens à la tonne sans raison, mais parce que les droits et libertés qu'on confère à un accusé au Canada sont importants et bien respectés. Alors, évidemment, il y a toujours place à l'amélioration. Ça, c'est
sûr. Ouais.
C'est
sûr.
Une réalité incontournable.
On ne demande pas une réforme, mais une amélioration.
Non. Et ce que je souhaite, en fait, je crois que où le bât blesse dans notre système, et ça s'applique à plusieurs égards et dans d'autres domaines, c'est le manque de ressources. Donc, le manque de ressources financières, le manque aussi de ressources humaines, le manque de personnel. Alors, peut-être que le souhait que je formule, c'est que plus d'argent soit investi dans notre système judiciaire parce que ça bénéficie à tout le monde finalement, autant aux accusés qui voient leurs droits et libertés respectés. Et il faut comprendre que ça n'entre pas en opposition avec l'intérêt des victimes à obtenir justice et à être respecté dans ce processus-là. Quand on respecte les droits et libertés d'un accusé, on s'assure d'un verdict. Si c'est un verdict de culpabilité, mais peu importe, un acquittement ou un verdict de culpabilité, on s'assure qu'il soit fiable parce qu'on a octroyé toutes les garanties possibles et que finalement, on parvient à une conclusion que la personne est soit innocente ou coupable. Et dans cette optique-là, évidemment que toute la société, incluant les victimes, est mieux servie quand on peut finalement avoir confiance dans le verdict suite à un procès en matière criminelle.
C'est un très beau souhait, Maître Chabouti.
Maître Chabouti a tout dit. Donc, je n'ai pas de la place pour ajouter quoi que ce soit encore. Chapeau.
C'est peut-être c'est un vœu pieux.
Donc, exactement, que nous partageons tous.
Oui, exact.
Et Dre Louis n'a rien trouvé à dire.
Ah
donc,
non.
Donc, c'est un vœu que nous partageons tous.
Bah, absolument. Oui, moi, je partage le même souhait que Maître Chabouti. Je pense qu'il y a toujours la place pour l'amélioration. Donc, comme elle a bien dit, je pense que c'était vraiment quand même un petit mot de sagesse.
Et puis, on dirait que je ne peux pas m'empêcher d'ajouter que ce que je souhaiterais, maintenant que vous avez ouvert la porte, on dirait que le souhait vient plus facilement, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que comme je suis une avocate de la défense, je souhaiterais que le rôle des avocats de la défense soit mieux compris de la population en général, des victimes aussi. Je crois que souvent, il y a mauvaise presse, parfois à raison, très souvent à tort. C'est aussi nous de...
Souvent, on voit ça. Souvent, on voit juste, pour ajouter un commentaire, des victimes qui se positionnent d'une façon, c'est comme si justice n'a pas été rendue. Donc, ça ne fait pas leur affaire. Des condamnations de 2 ans pendant que ces victimes-là attendaient des condamnations de 10 ans ou même à perpétuité. Donc, comme vous dites, Maître Chabouti, il y a urgence d'une compréhension mutuelle entre le fonctionnement de la justice et l'attente des victimes.
Absolument. En étant bien conscient que c'est extrêmement difficile de demander à une victime de comprendre tout ça, parce qu'elle est émotivement impliquée et qu'on comprend les difficultés qu'elle rencontre. Mais je crois que si les victimes saisissaient mieux le rôle de l'avocat de la défense, il faut savoir que les dossiers où on dépose des accusations résultent plus souvent qu'autrement à une condamnation qu'un acquittement. Donc, un avocat de la défense qui est tenace, qui fait son travail, va engendrer un verdict qui va être fiable. Et lorsque le verdict est un verdict de condamnation, bien, la victime, évidemment, est généralement satisfaite par ce verdict-là. Et on peut s'assurer de cette façon-là que c'est un verdict qui a été éprouvé, testé et qu'il est très fiable, donc qui risque de ne pas être renversé en appel, par exemple. Alors, l'intérêt de tout le monde est convergent et c'est à nous aussi probablement en tant qu'avocats de la défense et notamment par le biais de notre association et de diverses associations des avocats de la défense dans la province à faire le travail de renseigner le public sur la nature de notre rôle et l'importance de celui-ci.
Merci, Maître Chabouti. Merci Vaudrey Louis et aussi merci à Pierre Brisebois, notre metteur en onde. Merci à Lou Belki, notre recherchiste. Merci aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit au Québec ou ailleurs. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, notre sujet sera autour du droit du logement, la problématique du logement au Québec. Donc, on vous attend à la même heure pour une émission aussi pétillante qu'aujourd'hui. Merci et au revoir.
Ça a été un plaisir.
Plaisir partagé.
Plaisir partagé, M. Chabouti.
Merci.
On m'avait dit, ne pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci. À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit? Passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment.
Brisons les murs de masques et de crachats.
Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques.
Préparons la moisson des carillons.
Le carillon, le carillon.
Changeons ce monde de face.
Rions, chantons, rions, chantons. Liberté
dans toutes les écoles.
Liberté,
plus de protocole.
Liberté,
ta main dans la mienne. On sera les mêmes que notre règne vienne.
Liberté,
parce que c'est un choix.
Liberté,
parce que c'est un droit.
Liberté,
nos vies sont à nous. Tous au rendez-vous,
ensemble c'est moins flou.
Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. laissons pas la peur, ne laissons pas la peur.
Ils ont de la force qui ravive les sons.
En nous la force, en nous la force.
Espérons l'homme, espérons l'autre.
Espérons l'homme, espérons l'autre.
Reprenons leur nos vies.
Rions, chantons, rions, chantons. Liberté,
dans toutes les écoles.
Liberté,
plus de protocole.
Liberté, ta main dans la mienne. On sera les mêmes que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous. Tous au rendez-vous, ensemble c'est moins flou.
On est très très bien.
Soyez heureux.
Clôturer les trois jours du festival Jeunesse en Action et entamer la rentrée des classes en toute beauté, Regroupement Jeunesse en Action vous invite au parc Aimé Léonard, boulevard Point Est, vendredi 30 août, 16h. Présidence d'honneur, Madouane Kakadé, députée de Bourassa Sauvé, Martine Moussaou Mouélé, conseillère de Vidré, et Josué Corville, conseiller de Saint-Michel. Au programme, maquillage, jeux gonflables, activités pour toute la famille, prix de présence, ambiance musicale et du bon réseautage en sus. Alors, on se rencontre vendredi 30 août, parc Émile-Léonard, Montréal-Nord, 16h. Pour tout contact, Esdras Métayer, 514-804-1012. Une gracieuseté du Radio Centre-Ville.
Vous voulez manger un bon mets créole, j'en mange la caille, Resto Cricrac et la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tasseau de cabri, tasseau de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6161. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a, on connaît. Produit le mettez sous étagelle, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier, le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville. Plus de 40 ans d'histoire.